Question 1.
A. Je peux m'asseoir ici? B. Mon chien peut venir avec moi? C. Quand passe le prochain bus? D. Vous me donnez un ticket?
Question 2.
A.
Bravo, cuisinier. C'est délicieux.
B.
Je voudrais une table près de la fenêtre.
C.
Un autre café, s'il vous plaît.
D.
Vous pouvez garder la monnaie.
Question 3.
Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît?
A.
Bien sûr.
B.
C'est vrai.
C.
Très souvent.
D.
Merci bien.
Question 4.
Excusez-moi, je suis perdu. Je veux aller à la mairie.
A.
Oui, allez-y. C'est ouvert maintenant.
B.
Oui, attendez. Elle va bientôt arriver.
C.
Oui, cherchez dans la bibliothèque.
D.
Oui, prenez la première rue à droite.
Question 5.
Bonjour, docteur.
Bonjour, monsieur Moulin. Asseyez-vous. Quel est le problème?
A.
Il fait très chaud.
B.
J'ai mal au ventre.
C.
Je cherche mes clés.
D.
Mon téléphone est cassé.
Question 6.
Tu viens au cinéma avec moi?
A.
Bonne journée. À ce soir.
B.
C'est une bonne idée.
C.
Merci de ta visite.
D.
Oui, ça va bien.
Question 7.
Bonjour, je fais une enquête sur les Français et leur temps libre. Pourriez-vous me parler de vos loisirs préférés?
A.
J'adore jouer au tennis de table.
B.
Je préfère faire les courses en semaine.
C.
Je souhaite travailler en équipe.
D.
Je voudrais acheter une maison.
On pourrait aller voir un film cet après-midi. Ça te dit?
Tu sais, je dois faire des courses. Le frigidaire est vide. Et je dois chercher un paquet et des timbres. Et puis, je préférerais aller nager.
Pourquoi pas? Je prépare les maillots et les serviettes et on se retrouve à 16h.
Question 8.
Où est-ce que ces personnes vont se retrouver à 16h?
Bonjour, madame. J'habite à Québec depuis 2 mois. Je cherche une activité sportive à faire dans le quartier Montcalm. Pouvez-vous m'aider?
Certainement, monsieur. Voici un catalogue avec de nombreuses informations utiles.
Question 9.
Qu'est-ce que cet homme veut faire? Hey Nicolas, tu as des projets pour ce week-end ?
Non, pas vraiment. Et toi ?
Ben oui, j'ai bien envie d'aller à la piscine samedi après-midi. Ça te dit de venir avec moi ?
Pourquoi pas ? J'ai besoin de me détendre après mes examens.
On se retrouve devant l'université avant, et on fait le trajet ensemble. On dit 14h ?
Oui, d'accord.
Question 10.
Que fait Nicolas ?
Alors, que pensez-vous de la maison ?
Elle me plaît. Elle correspond à ce que je recherche. Un lieu de vie clair et spacieux.
Vous pourrez refaire la peinture si vous voulez. Elle est un peu vieille.
Oui, peut-être. Pour l'instant, je préférerais changer les fenêtres. On entend beaucoup les voitures dehors.
En effet, il y a un supermarché à l'angle de la rue.
C'est embêtant. Je rêvais d'un endroit calme.
Prenez le temps de réfléchir.
Question 11.
Pour quelle raison la femme hésite-t-elle à louer la maison ?
Je suis tunisien et je viens d'arriver au Canada. Et toi ?
Moi, je suis québécoise.
Alors, tu pourras peut-être me renseigner sur les démarches à suivre pour ma demande d'admission à l'université.
Il vaut mieux que tu t'adresses au secrétariat de l'université. En tant qu'étudiant étranger, il y a des modalités particulières.
Je ne peux pas faire de demande par courrier ou en ligne. Et est-ce qu'il y a des équivalences avec mes diplômes tunisiens ?
Je l'ignore. Téléphone plutôt au secrétariat.
Question 12.
Quel conseil cette étudiante donne-t-elle au jeune homme ?
Cette fête de la gastronomie est l'occasion d'évoquer un plaisir que l'on peut partager très tôt en famille, le plaisir de cuisiner à quatre mains, parents et enfants réunis autour d'une même recette. Cuisiner avec son enfant, c'est une activité à la fois ludique, créative, enrichissante pour un enfant puisqu'elle fait appel à tous ses sens et c'est bien entendu un bon moment à passer ensemble.
Question 13.
Selon cette personne, que permet la fête de la gastronomie ?
François, souvenez-vous que l'informaticien passera cet après-midi au service comptabilité.
Oui, je sais. Pour les deux ordinateurs en panne.
Oui. Appelez la comptable pour vérifier qu'elle a bien noté le rendez-vous.
Elle est en formation jusqu'à la fin de la semaine. Sur le nouveau logiciel de comptabilité, justement. Elle revient lundi.
Demandez à notre stagiaire d'être présent, alors.
Je m'en occupe tout de suite.
Question 14.
Pourquoi l'informaticien vient-il ?
Excusez-moi, je cherche le bureau de Madame Fournier, s'il vous plaît.
Oui, c'est juste au-dessus. Prenez l'escalier sur votre gauche et en haut, poussez la porte. C'est le bureau 123.
Question 15.
Que doit faire cette personne ?
Et j'arrive à un âge où on a peut-être besoin de moins de sommeil. Hein. mais il est évident que, en bordure de vouloir cadrer, je n'arrive pas à supporter ce niveau sonore qui est permanent. Entre autres, il faut aussi ne pas oublier que, même si l'intensité routière diminue en nuit, on est réveillé par des bruits un petit peu exceptionnels, une moto pétaradant qui passe, ou une voiture qui passe à 200 à l'heure sur le boulevard Calvet. C'est ce qu'on constate régulièrement.
Question 16. Qu'est-ce qui empêche cet homme de dormir? Amis auditeurs, voici une idée de lecture originale. Les éditions Parigram ont publié un ouvrage intitulé Paris et ses alentours au temps de Napoléon, histoire de nous faire découvrir les jeux qui ont compté au cours de cette période, mais aussi les principaux travaux, les constructions les plus emblématiques et les transformations les plus remarquables voulues par Napoléon. Car quand il n'est pas à la guerre, il nourrit de grands desseins pour la capitale. L'Arc de Triomphe, la colonne Vendôme. Question 17. Quel est le sujet du livre? Des informations sur la circulation et les premiers problèmes ce matin sur les routes de France. Pour le premier week-end des vacances scolaires, il y a beaucoup de monde sur les routes, donc faites très attention quand vous êtes en voiture. Et n'oubliez pas de vous arrêter toutes les deux heures pour faire une pause.
Question 19. Quelle information donne le journaliste?
Hélène Carrère-Mancos, votre article nous informe du danger qui menace l'existence et le développement des lycées français de l'étranger.
Oui, ces lycées sont payants. Ils sont devenus gratuits en 2016. Cette décision, au départ généreuse, se retourne finalement contre les lycées, car les entreprises qui payaient ne le font plus. Et c'est l'État seul qui soutient les lycées. Donc, quand cela ne vient pas trop lourd pour l'État, il risque de vouloir enfermer certains.
Question 20. Pour Hélène Carrère-Mancos, quels sont les problèmes des lycées français de l'étranger?
Quel froid ce matin!
Oui, mais au moins, il y a du soleil.
C'est sûr. À côté d'hier, la pluie toute la journée, c'était l'horreur.
Ah oui, j'aime mieux ce froid sec.
Question 21.
Quel temps fait-il aujourd'hui?
Quand j'étais adolescent, j'avais écrit un long poème à Georges Brassens. J'avais fini de le recopier. Enfin, c'était une espèce de chanson que j'avais fini de recopier dans le bistrot en face de l'impasse Florimond, où il habitait. Et j'étais allé lui porter. Sauf qu'il n'habitait plus là depuis des années et que j'étais assez rassuré qu'il n'habite plus là parce que je ne sais pas ce que je lui aurais raconté. Mais je l'avais écrite. Et je me dis que si un jour j'avais reçu un petit mot de Brassens me disant « J'ai lu vos chansons et j'aimerais bien vous en parler », ça m'aurait intéressé.
Question 22.
Qu'aurait souhaité cette personne en allant chez Georges Brassens ?
Bonjour, Monsieur Nouguet. Madame Lefebvre, de la Direction des Ressources Humaines de la Société AGPRO. Je vous appelle au sujet de votre candidature pour le poste de graphiste. Votre CV a été présélectionné par la Directrice des Ressources Humaines. Si ce poste vous intéresse toujours, nous aimerions vous rencontrer dans les prochains jours. Merci de me rappeler au 01 25 38 67 54. Au revoir.
Question 23.
Pourquoi Madame Lefebvre a-t-elle appelé Monsieur Nouguet ?
Bonjour monsieur, puis-je vous renseigner ?
Bonjour, je souhaiterais visiter le sud de la France avec mon épouse.
Eh bien, nous pouvons vous proposer un séjour sur la Côte d'Azur. Vous pourriez acheter un forfait qui comprend le transport aller et retour, ainsi que les nuits d'hôtel et les trajets de bus entre les villes. Voici la brochure du séjour.
Je vais en parler à ma femme et je reviendrai demain. Merci.
Question 24.
Quelle est l'intention de cette personne ?
Les agronomes travaillent beaucoup sur l'agroécologie. Notre modèle est très dépendant du pétrole et du gaz pour les engrais, le transport des denrées, l'énergie pour l'irrigation. Et avec un pétrole qui devient plus rare et plus cher, il s'agit donc de trouver des techniques moins gourmandes, comme l'explique Olivier Descuteurs, rapporteur spécial des Nations Unies pour l'alimentation.
Dans beaucoup de zones qui ne sont pas encore développées selon les méthodes agro-industrielles de production, il faut effectivement mettre l'accent sur des pratiques agroécologiques qui, par exemple, permettent de recycler les déchets dans le champ pour fertiliser le champ ou qui permettent de combiner l'agroforesterie avec des cultures alimentaires pour économiser les engrais chimiques grâce à la fertilisation des sols par les arbres.
Question 25.
Quelle piste est envisagée pour améliorer la production agricole ?
Le crayon que vos parents vous ont donné vos revues, vous pouvez en changer, mais ce n'est pas une simple formalité. Il faut obligatoirement faire appel à un avocat qui dépose le dossier auprès du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou du domicile du demandeur. La principale difficulté, comme le souligne Maître David Bachalard, est de parvenir à convaincre les juges du bien fondé de sa requête.
On peut changer de prénom à condition de justifier d'un intérêt légitime. La francisation, par exemple. Mais ça peut être également des personnes qui souhaitent mettre en adéquation leur prénom avec leur conviction religieuse. Et puis, il y a des cas beaucoup plus atypiques. Une personne qui souffre de son prénom parce qu'il a un caractère quelque peu ridicule, qui rencontre des difficultés.
Question 26.
Pourquoi changer de prénom peut-il s'avérer difficile ?
Thank you.
Mesdames, messieurs, bienvenue sur le bateau de la société Sapine au service de notre clientèle locale. Nous allons découvrir ensemble Paris au gré de la Seine. Et comme est mieux qu'à pied ou en autocar. Voici notre programme. De 10h à 12h, nous allons longer les quais et passer sous de nombreux ponts. Nous nous arrêterons devant Notre-Dame de Paris, les Hugo et d'Orsay. Enfin, nous arriverons au Trocadéro. Pour vous remettre toutes ces émotions, un déjeuner est prévu ici même à 12h30. Un bus viendra vous reprendre à 7h30 pour vous conduire à votre hôtel. Passez un très agréable moment en notre compagnie. Question 27.
Que propose la guide aux touristes?
Léonard reçoit une éducation relativement libre, comme l'était celle de la plupart des villageois de son âge. On imagine Léonard aujourd'hui comme un puits de science, une sorte de grand sage qui très jeune aurait été formé à la culture humaniste traditionnelle. Évidemment, ça n'est pas le cas. C'est un enfant qui s'est mis, en quelque sorte, à l'école de la nature, qui scrute, qui observe tout. Il est passionné par tout ce qui l'entoure et il s'aperçoit vite que le sens de l'observation est peut-être le meilleur des enseignements.
Question 28.
Qu'est-ce que Léonard a de particulier?
Vous avez vu le premier film de Robert Feuillade, hier?
Non, ce n'est pas le genre de film que j'aime.
Moi, je regarde tous les films. J'adore le cinéma depuis toujours. Sans doute parce que mon père m'emmenait au cinéma alors que j'étais encore au biberon. Je me souviens encore de mon premier western. Dans la petite ville où on habitait, tous les samedis, il y avait le cinéma en plein air gratuit.
Moi, ce que je préférais quand j'allais au cinéma avec mon père, c'était la glace à la vanille qu'il m'achetait.
Question 29.
Selon cette femme, qu'est-ce qui explique son amour inconditionnel du cinéma?
Colis.com, toujours à votre service. Nous acheminons chaque jour plus de 75 millions de plis. Si, malgré tous nos efforts, un envoi n'est pas parvenu à son destinataire, des professionnels sont à votre disposition pour réaliser les recherches nécessaires et s'engagent à vous tenir informés dans les plus brefs délais. Pour ce faire, connectez-vous à notre site www.colis.com ou appelez le 08 67 35 35 35. Nous serons toujours à votre écoute.
Question 30.
À quel type d'entreprise appartient ce service?
Donc, sans aller jusqu'au licenciement, Philippe, quelles sont les conséquences d'un mauvais niveau d'orthographe?
Alors, les responsables des ressources humaines interrogés par OpinionWeb pour Pêcherelle reconnaissent à 52% que ça a déjà pu jouer dans la mise à l'écart d'un candidat au moment du recrutement, et ils sont 15% à estimer que ça peut freiner la promotion d'un salarié. Ce qui n'est pas, après tout, énorme pour l'ensemble de la population, mais ça prend de tout autres proportions si on s'intéresse aux plus jeunes, aux moins de 30 ans. Ce sont eux qui disent avoir le plus de mal avec l'orthographe quand on leur demande si leur faute ont suscité des reproches de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, de leurs clients. Ils sont deux fois plus nombreux que le reste de la population à dire oui.
Question 31. Qu'apprend-on sur le niveau d'orthographe dans le monde du travail?
Longtemps, la copie illégale de produits ne concernait que le domaine du luxe. Aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie sont atteints par ce phénomène. Pièces automobiles, prêt-à-porter, jouets ou encore médicaments. La douane française a saisi plus de 5 millions d'articles, soit deux fois plus que l'année dernière, et on estime que cette contrefaçon contribue à supprimer 30 000 emplois en France chaque année.
Question 32.
Quel constat la journaliste fait-elle sur la contrefaçon ?
C'est l'une des plus grandes chansons qui a été faite dans toute l'histoire de la chanson francophone. On a accès à un court métrage, en fait, c'est même un long métrage en quelques minutes. Et d'arriver à dépeindre tout un univers où on comprend la complexité du personnage, où on peut le mettre dans un contexte social, où on peut, on a même presque des parfums, on a tout dans cette chanson-là. Donc c'est comme si j'avais chanté un grand maître. Si j'étais en classique, j'aurais joué Bach. Ben là, j'ai chanté Aznavour, j'ai chanté cette chanson d'Aznavour.
Question 33.
De quoi parle cet artiste ?
Les plus de 60 ans, ils sont près d'un milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30%. Des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent, des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées.
Dans le secteur de l'aide à domicile, considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable! Aucun autre ministère ne peut proposer autant de champs de croissance.
Question 34.
Dans ce reportage, qu'apprend-on sur les seniors ?
Alors Jean, c'était ce journal. Qu'est-ce que ça a donné ?
C'était passionnant, épuisant, parce que l'on ne compte pas ses heures. Il y a énormément de déplacements. Ça, c'est un côté agréable, mais qu'il faut gérer intelligemment par rapport à la vie de famille.
C'est un travail très valorisant, non ?
C'est vrai. On bénéficie d'une considération exceptionnelle. Mais ça aussi, il faut le gérer. Le hic, c'est que la rédaction garde un droit de regard sur les papiers. Je crains que le travail avec eux soit trop orienté. Ils ont des accointances fortes avec certains élus, même s'ils le nient. Et ça n'est pas sans conséquence.
Le salaire pourra peut-être te faire oublier tes réticences.
La déontologie et toi, ça fait deux.
Question 35. Que redoute Jean à propos de cet emploi ?
Les nouveaux outils aujourd'hui que nous utilisons au quotidien, est-ce qu'ils ont stimulé de nouvelles intelligences ou est-ce qu'elles en ont, est-ce qu'ils ont amoindri d'autres capacités ?
Alors, on peut considérer qu'en effet, les nouveaux outils numériques, par exemple, ordinateurs, robots, font qu'on va déléguer aux machines certaines tâches asservissantes pour l'homme.
On voit pour la mémoire, par exemple, voilà. Le calcul mental.
C'est un autre aspect, la mémoire. La mémoire, c'est le second, c'est que la mémoire est devenue plutôt externe. La mémoire étant externe, et finalement, les tâches qui nécessitaient beaucoup de temps, de concentration, de labeur, plus automatiques, peuvent être déléguées aux machines. Donc, il y a là un espace de nouveauté.
Question 36.
Qu'explique l'intervenant à propos des nouveaux outils numériques ?
Qu'est-ce qu'on avait en couverture ce mois-ci? Ce mois-ci, on se questionne sur la présence de l'école dans le Golfe Saint-Laurent, dans toutes choses du Golfe Saint-Laurent. Il y a beaucoup de controverses au sujet de son exploitation, son extraction, sur les dommages potentiels que ça pourrait causer au Golfe, qui est dans un écosystème assez précieux et assez unique aussi au monde. Mais aussi, cette richesse qu'on ne soupçonnait pas il y a une vingtaine, trentaine d'années, ce pétrole, dans tout cela. Alors, ça fait des débats, c'est assez important.
Question 37. Qu'est-ce qui fait polémique? Alors, aussi bien dans le public que dans le privé, ce mal-être au travail résulte selon vous d'une mutation sociale profonde et structurelle du marché du travail, de notre rapport au travail?
Ce que l'on constate, c'est que, pour essayer de résumer ça, le travail est issu étymologiquement du tripalium, le poteau de torture, qui gagne à la vie, à la sueur de son front, etc., c'est-à-dire la pénibilité physique. Or, on constate, c'est le paradoxe, qu'en fait, le temps de travail dans la vie a plutôt diminué et la pénibilité physique a considérablement diminué dans la plupart des vies. Mais ça a été compensé par, ou transformé par une charge psychique, une mobilisation psychique et une pénibilité subjective, et donc le malaise s'est classé.
Question 38. Qu'explique maintenant à propos de la pénibilité au travail?
Peut-être aurais-je dû moi aussi faire l'acquisition de l'un de ces nombreux manuels du bonheur proposés par la librairie Erol. Cela m'aurait peut-être aidé à positiver, à voir les choses autrement, comme le prônent justement ces ouvrages. Ainsi, je ne serais pas rentrée avec la sensation un peu déprimante, je dois le dire, que pour être heureux, eh bien, il faut faire des efforts. Le bonheur n'est pas inné, nous disent les spécialistes, il s'apprend. Et donc au rayon bonheur de la librairie, donc je n'invente pas, il y a bien une étiquette bonheur sur un rayon. Les manuels proposent leur aide à grands coups d'exercices, de conseils, rédigés généralement à l'impératif. Hein, on lit « Ne vous souciez pas du regard des autres ».
Question 39.
Quelle conclusion la journaliste tire-t-elle de sa visite dans cette librairie ?